Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous. Tous les matins, RFI vous donne la parole dans 30 minutes. Vos réactions sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC avec ces affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 qui ne cessent de s'intensifier. Les rebelles gagnent même du terrain. Et c'est donc dans ce contexte qu'une rencontre est annoncée entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Ce dernier est accusé par Kinshasa et l'ONU de soutenir les rebelles. En tout cas, les deux chefs d'État ont accepté sur le principe de se rencontrer prochainement. Ce face-à-face permettra-t-il de résoudre la crise entre les deux pays voisins? Vos commentaires, vos réflexions, vos analyses et témoignages, vous qui êtes sur le terrain, on vous attend évidemment au standard 33 9 693 693 70 et vos commentaires comme tous les jours sur nos réseaux sociaux. J'en lirai quelques-uns. Hein. J'ai vu qu'il y avait des dizaines et des dizaines de commentaires. J'en lirai évidemment à 5-6 pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité et pour commencer, des questions sur le projet de loi dévoilé en début de semaine par Emmanuel Macron sur la fin de vie, un texte qui est loin de faire l'unanimité. Bonjour Kassim.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Et merci de nous écouter à Bamako sur votre téléphone portable grâce à l'application Pure Radio. Quelles sont vos questions Kassim?
Et mes questions sont, comment le médecin pourrait-il décider d'un protocole de fin de vie pour les malades qui ne peuvent plus s'exprimer?
Ah, c'est une bonne question que vous posez effectivement. Bonjour Frédéric Genot.
Bonjour Juan, bonjour
chef
Kassim.
Chef adjointe du service France de RFI, ce projet de loi ouvre sous condition une aide à mourir pour certains patients en fin de vie. Une personne malade qui ne peut plus s'exprimer, c'est un cas de figure qui a été envisagé?
Oui, mais avant toute chose, précisons bien hein, Juan, que nous évoquons le cas de quelqu'un qui aurait exprimé son souhait qu'on l'aide à mourir avant de se trouver dans une situation ne lui permettant plus de le dire ou de l'écrire. En aucun cas, une aide à mourir ne peut être envisagée sur les seuls dires de la famille ou d'un proche. Les critères fixés par la future loi sont donc très stricts et très précis selon les termes du chef de l'État. Les personnes qui en feront la demande devront être majeures, elles devront être capables d'un discernement plein et entier, ce qui signifie que les patients atteints de troubles psychiatriques ou de maladies, comme la maladie d'Alzheimer, ne seront pas concernés.
Alors, pour ceux qui seront concernés, il y a des cas où ces patients incurables ne seront plus capables de s'exprimer.
Oui, Juan, on a beaucoup parlé ces derniers temps de la maladie de Charcot, dont on ne peut guérir. Le malade perd progressivement l'usage de ses membres, puis de la parole avant que cela atteigne les fonctions vitales, mais il garde toute sa tête jusqu'au bout et il se voit diminuer. S'il a émis clairement des directives, par exemple « je ne veux plus continuer à vivre lorsque je ne pourrai plus manger tout seul », l'équipe médicale pourra estimer que les souffrances psychologiques ou physiques sont telles que l'on peut envisager une aide à mourir. La décision sera prise par un ensemble de personnes. Il faudra une équipe avec au moins deux médecins et du personnel soignant, les infirmières connaissant le patient par exemple, et puis éventuellement un spécialiste de la maladie. Avant d'obtenir la réponse de cette équipe médicale, il y aura au moins deux jours d'attente et un délai maximum de 15 jours.
Alors Frédéric Genot, pour revenir à la question de Kassim, comment faire pour communiquer?
Eh bien oui, Kassim, avant de ne plus pouvoir parler ou écrire, eh bien il y a d'autres façons de communiquer. On connaît le fameux « si vous m'entendez, serrez-moi la main ». Il y a les regards, les gestes, des rictus, des grimaces. La souffrance se voit, surtout lorsque l'on connaît le patient, lorsqu'on le voit chaque jour. D'autant plus que le personnel soignant est très empathique. Donc ça, c'est le premier point. Les proches comprennent le patient. Et puis le deuxième point, c'est que le médecin ne décide pas tout seul. Il ne prend pas la décision face à un patient qui ne parle plus, il y a une équipe qui se prononce sur une demande qui a été faite avant et cela, ça enlève un peu du poids de la décision.
Kassim, vous avez une dernière question?
La famille aura-t-elle son mot à dire?
Oui, la famille aura-t-elle son mot à dire?
Oui, Kassim, tout à fait. D'abord, la famille a toujours son mot à dire. Ses observations sont toujours très utiles pour le corps médical. Ils connaissent le patient et dans ce moment si particulier qu'est la fin de vie, tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils disent sur ses souhaits, c'est important pour les médecins. Et puis, ils ont parfois, dans la famille, longtemps parlé avec le patient de ses souhaits, de sa façon d'envisager ses derniers jours. Si l'équipe médicale s'oppose à la demande d'aide à mourir du malade, la famille, comme le patient, peut demander un recours auprès d'un autre collège médical. Ça, c'est donc un droit de la famille et une nouvelle équipe pourra alors se réunir avec les mêmes délais que ceux cités précédemment.
Et ce projet de loi sur la fin de vie sera présenté en Conseil des ministres le mois prochain, avant d'arriver à l'Assemblée nationale fin mai. Kassim, avez-vous tout compris? Est-ce qu'on a répondu à vos questions?
Oui, c'est bon.
C'est bon? Bon, bah parfait. Bonne journée à Bamako alors. Et continue à nous écouter sur l'application Pure Radio. À bientôt, Frédéric Genot, journaliste donc au service France de RFI, chef adjointe même. 9h16 à Paris, vos questions. On va parler maintenant de l'ancien président sud-africain, Jacob Zuma. Marius, bonjour.
Bonjour Monsieur Juan Gomez, je dis bonjour à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité.
Et merci de nous écouter en Côte d'Ivoire. Vous avez des questions donc sur Jacob Zuma qui fait reparler de lui.
Oui. 6 ans après son départ du pouvoir, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma a annoncé être tête de liste aux élections générales. Alors, M. Wan, ma première question est de savoir, âgé de 81 ans, pourquoi décide-t-il de revenir sur la scène politique?
Ah oui, bientôt 82 ans, dans quelques semaines, et c'est vrai qu'il refuse de prendre sa retraite. Hein. Jacob Zuma, il a même créé son parti, et vous le disiez, il se présente aux élections générales du 29 mai. Bonjour Cécile Perrault.
Bonjour.
Maîtresse de conférence à l'université de Rennes 2, spécialiste de l'Afrique du Sud, pourquoi Jacob Zuma retourne-t-il maintenant dans l'arène politique?
Alors, il s'agit en fait du dernier épisode en date de la guerre entre l'ex-président Zuma et l'actuel président Ramaphosa. Une guerre qui a été ouverte depuis février 2018 déjà, quand Jacob Zuma a dû laisser les rênes de l'ANC, puis du pays à son rival, sur fond de scandale de corruption majeur. Et son retour là, et le soutien appuyé qu'il montre au nouveau parti formé en décembre 2023, le MK, et sa décision de figurer en tête de liste de ce parti aux élections annoncée il y a quelques jours, tient de mon point de vue à une revanche personnelle vis-à-vis de son rival, et puis aussi à une façon de rappeler à l'ANC son pouvoir de nuisance, et le fait qu'il dispose encore de nombreux appuis qui lui permettraient de remettre en cause l'hégémonie du parti de l'ANC lors des prochaines élections.
Donc le but de Jacob Zuma est d'affaiblir l'ANC en essayant d'attirer le maximum d'électeurs lors des élections du mois de mai?
Oui, et c'est plutôt une réussite pour le moment, dans la mesure où ce parti qui a été formé il y a seulement 3 mois aurait, d'après les derniers sondages, environ 15% des intentions de vote, ce qui en ferait un faiseur de roi lors des élections du 29 mai prochain. Ça lui donne vraiment une position centrale entre l'Alliance démocratique et l'ANC pour les prochaines élections.
Donc ça veut dire, Cécile Perrault, que malgré toutes ces affaires de corruption dont il a été plus ou moins impliqué, Jacob Zuma est toujours populaire en Afrique du Sud?
Auprès d'une partie de l'électorat, oui, et notamment dans le KwaZulu-Natal, qui est la province qui est la plus peuplée en Afrique du Sud, et où il pourrait rafler la mise, où le MK pourrait rafler la mise lors des prochaines élections et du coup remettre en cause l'hégémonie de l'ANC dans cette province.
Allez, Marius a une autre question à vous poser, Cécile Perrault.
Oui, j'ai une seconde question. Bon, M. Wan, étant condamné pour outrage à la justice, est-ce que sa candidature peut être acceptée?
En tout cas, si on lit la Constitution, et je parle sous votre contrôle, Cyril Perrault, il ne pourra pas se présenter.
Alors effectivement, au mois de janvier, déjà, avant même qu'il se présente, la Commission électorale indépendante en Afrique du Sud avait déjà émis un avis indiquant qu'il ne pouvait pas se présenter du fait d'une impossibilité constitutionnelle. En plus de ça, Jacob Zuma fait actuellement face à 16 chefs d'accusation pour fraude et corruption. Donc il a énormément de casseroles. Oui. Ceci étant dit, l'objectif de Jacob Zuma, de mon point de vue, n'est pas réellement de devenir député en mai 2024, mais plutôt de mettre en lumière et d'incarner le MK de façon à vraiment lui donner un coup de boost en vue des prochaines élections et porter ainsi un coup fatal à l'ANC.
Oui, enfin, je rappelle, avec tout le respect qu'on lui doit, Jacob Zuma a 82 ans. Les prochaines élections auront lieu dans 5 ans.
Les tout suivantes. À fait, mais donc, bon, son objectif est probablement pas d'être élu. Il n'y a pas forcément énormément d'intérêt, oui. D'autant que s'il devenait député, il perdrait les avantages liés
au fait qu'il soit ancien président. Président. Oui, effectivement. Voilà. Merci Cécile Perrot d'avoir pris quelques instants pour répondre à Marius. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Rennes, Paris 2. Bonne journée à tous les deux. 9h21 à Paris. Des questions maintenant sur une autre élection présidentielle, celle du 15 juillet au Rwanda. Bonjour Isaac.
Bonjour.
Oh Isaac, j'ai l'impression que le réseau téléphone avec Lubumbashi est quelque peu compliqué. On va tendre l'oreille. Quelles sont vos questions?
Oui, bonjour à tous les auditeurs de l'RFI. Paul Kagame a été désigné par son parti comme candidat à l'élection présidentielle. Mmh. Alors, j'ai deux petites préoccupations.
Allez-y.
Pourquoi se représente-t-il à nouveau? Quelles sont les chances de l'opposition à ce scrutin?
Et Paul Kagame va effectivement briguer un quatrième mandat. Il a accepté samedi de porter les couleurs de son parti, le Front Patriotique Rwandais. Bonjour Benjamin Chemouny.
Bonjour.
Professeur à l'Université catholique de Louvain en Belgique, spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs. Paul Kagame dirige le Rwanda depuis le milieu des années 90. Pourquoi est-il une fois de plus candidat à sa propre succession?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais une des premières raisons, c'est en tout cas qu'il se voit toujours comme le seul capable de garantir l'unité du pays, mais aussi l'unité du parti et de l'armée, hein, parce qu'il y a des ambitions, mais il se voit comme capable un petit peu de gérer ses ambitions et de continuer un peu à développer le pays sur cette trajectoire. Et peut-être la deuxième raison, qui est peut-être un peu plus de court terme, c'est qu'on le sait, les relations du Rwanda avec plusieurs de ses voisins sont compliquées. Ça reste une période de tension et d'incertitude. Et Kagame se voit lui-même, et cet avis est partagé par beaucoup de personnes dans le parti et dans l'armée, comme celui capable aussi de gérer ces tensions. Ouais.
Mais enfin, on a pris la question d'Isaac, parce que je la trouve pertinente, d'autant, et je vais citer Paul Kagame, samedi, en parlant de sa candidature, qu'a-t-il dit? Je le cite, « J'accepte ce fardeau de responsabilité, mais j'appelle à trouver quelqu'un pour me relever de cette responsabilité. » Faut-il comprendre que c'est la dernière fois que Paul Kagame se présente à l'élection présidentielle?
Alors, ce discours, Paul Kagame l'a depuis au moins une dizaine d'années. Hein, déjà, aux alentours 2010-2013, il commençait à dire qu'il ne serait pas éternellement là, que c'était la responsabilité du FPR de lui trouver un successeur. Donc, c'est un discours qu'il a depuis très longtemps. Donc, à savoir si c'est la dernière, l'avant-dernière ou l'avant-l'avant-dernière, ça reste une question ouverte. Je pense en tout cas que ça montre qu'il est conscient que la question de sa succession va se poser et reste une question sensible qu'il faut préparer. Ça, c'est une bonne chose. Après, évidemment, quand est-ce qu'il faut la préparer? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est dans 5 ans? Est-ce que c'est en 2034, puisque la Constitution lui permet de se représenter jusqu'en 2034? Ça reste une question ouverte.
Ouais, Isaac nous demandait quelles sont les chances de l'opposition. Elles sont nulles?
Oui, je pense, pour être clair, je dirais qu'elles sont nulles pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, pour l'instant, le seul candidat, c'est Franck Habineza du Parti Vert, qui a fait 0,45% aux dernières élections et qui n'a pas vraiment de machine de parti pour mobiliser les gens sur les collines pour voter pour lui. Les autres opposants, en fait, n'ont pas pu concourir. On voit Victoire Ngabire hier, je
tout
crois,
fait, hein, oui.
qui ne peut pas, la haute cour de Kigali a déclaré qu'elle ne pouvait pas concourir. Quant aux autres partis au Rwanda, c'est des partis qui font partie de la coalition au pouvoir avec le FPR et pour l'instant n'ont pas exprimé le vœu de vouloir se distancer de la vision du FPR, voire de soutenir quelqu'un d'autre que Paul Kagame.
Et donc, comme aux précédentes élections, Paul Kagame obtiendra très certainement plus de 90% des voix.
Je pense.
Benjamin Chemouny, merci d'avoir été avec nous, professeur à l'Université catholique de Louvain. Isaac, on a répondu à vos questions ?
Merci beaucoup.
Merci à vous et bon courage à Lubumbashi. 9h25, il nous reste 5 minutes. On va prendre une dernière question, on va continuer à parler justement du Rwanda, mais de la RDC, avec, après l'annonce d'une possible rencontre entre les deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Ce sera d'ailleurs notre débat du jour dans un quart d'heure maintenant. Bonjour Janvier.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les étiquettes de RFI.
Au Tchad, nous vous écoutons. Oh.
Bien sûr, Amundou, pourquoi Paul Kagame, avec son homologue Félix Tshisekedi de RDC, accepte-t-il de se revoir maintenant alors que leur dernier échange s'est conclu par des insultes ?
Ah, c'est vrai que
quelle pourrait être les modalités de cette nouvelle rencontre ?
C'est vrai que la dernière rencontre en février, c'était en marge du sommet de l'Union africaine, était très tendue. Elle s'est terminée, selon plusieurs sources, par un échange d'invectives. Henri Pacifique Mayala, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Coordinateur du baromètre sécuritaire du Kivu, les deux chefs d'État sont d'accord sur le principe pour se rencontrer. Pourquoi maintenant, alors que la dernière fois, ça s'est plutôt mal passé il y a un mois ?
Alors, comme vous venez de le dire, il y a un mois, le 16 février à 10, c'était un chaos. Il n'y a jamais eu de poignée de main entre les deux présidents. Ce fut vraiment la matérialisation de cette montée de tension entre les deux protagonistes. Mais de mon côté, je pense que dans l'entretemps, on a vu le président Félix 10 jours après se rendre à Luanda. Le lundi dernier, c'est le président Paul Kagame qui était là-bas.
L'Angola étant le médiateur de l'Union africaine dans ce dossier, hein, je le rappelle.
Exact. Je crois qu'il y a eu beaucoup trop d'avancées qui, dans une certaine façon, ont accordé davantage à tous les deux camps et des désavantages pressentis beaucoup plus peut-être du côté rwandais. Quand, par exemple, l'Union africaine avance dans la perspective à pouvoir soutenir le déploiement des forces des SAMI RDC, les forces de la SADC, alors que nous savons que le Rwanda, pour une première fois, la diplomatie rwandaise a plus ou moins rendu publique sa frustration d'avoir cette force ou le déploiement de cette force se matérialiser. Et plus loin encore, vous avez vu que le secrétariat général du Conseil de sécurité serait plus ou moins aussi favorable à avancer dans cette même posture. Cela, je crois que poserait pour le Rwanda un sérieux problème. Et j'estime que la seule façon pour le moment, c'est d'avancer avec ces mécanismes de dialogue et quitte à voir comment est-ce que ça pourrait apporter des changements sur le terrain, ce qui reste encore peu probable.
Ouais. En tout cas, le président Tshisekedi fixe ses conditions avant de rencontrer à nouveau Paul Kagame. Il exige le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Quand on sait que le Rwanda nie toute présence en RDC, est-ce que Félix Tshisekedi ne demande pas l'impossible ?
Ah oui, tout à fait. Hein. Certains de mes collègues commentent cela pour une déclaration dédiée à la consommation locale. Mais j'estime aussi que si le président Félix avait déjà posé ses préalables avant de se rendre à Addis et que même en essayant d'aller à Luanda, les conditions étaient les mêmes. Le même lundi où le président Paul Kagame était à Luanda, c'est le jour où tombaient des agglomérations stratégiques comme Vichumbi, la cité, la vallée de Rwindi. Du côté rwandais, on ne voit pas en tout cas des signes de bonne foi matériels sur le terrain, que ce soit en termes de retrait des troupes ou de matériel sensible dans ce conflit. Par ailleurs, ce qu'il faudrait soulever sur la question de notre ami, c'est que les discussions diplomatiques, c'est bon parce que j'estime que pour le Congo, ça sera aussi une opportunité de prouver à la face du monde qu'effectivement, le Rwanda, c'est l'acteur derrière ces conflits. Et pour un État, pouvoir discuter d'État à État et non de discuter avec un acteur illégitime qu'il taxe déjà de terroriste. Ouais, mais cependant, il y a une autre dimension à ce conflit qui que l'on exprime très moins, c'est l'avènement de Nanga qui représente plus ou moins une dimension interne à ce conflit et qui pourrait peut-être aussi, même si le... Rwanda pouvait se...
Henri Pacifique Mouyala, je suis désolé de vous interrompre, on arrive malheureusement à la fin de cette...